Bienvenue dans Actualité du Pape. À la demande du Saint-Siège, les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de ses saints parents, Louis et Zélie Martin, étaient présentes sur la place Saint-Pierre au Vatican lors de l'audience générale de ce mercredi 7 juin 2023. Arrivant sur l'estrade du Parvis, notre Saint-Père le Pape François a déposé une rose blanche et s'est recueilli en prière devant le reliquaire de Sainte Thérèse. Et voici la catéchèse qu'a donnée notre Saint-Père, le Pape François, place Saint-Pierre, ce mercredi 7 juin. C'est la passion pour l'évangélisation. Nous sommes toujours dans les témoins, c'est la 16e catéchèse. Il y est question, bien évidemment, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions. En voici la retranscription intégrale. Chers frères et sœurs, bienvenue, bonjour. Nous voici devant les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne universelle des missions. Il est beau que cela se produise durant le moment de notre réflexion sur la passion pour l'évangélisation, sur le zèle apostolique. Aujourd'hui donc, laissons-nous aider par le témoignage de Sainte Thérèse. Elle est née il y a 150 ans, et à l'occasion de cet anniversaire, j'ai l'intention de lui dédier une lettre apostolique. Elle est la patronne des missions, bien qu'elle ne soit jamais partie en mission. Comment explique-t-on cela ? Elle était carmélite et sa vie fut marquée par la petitesse et la faiblesse. Elle se définissait elle-même comme un petit grain de sable. De santé fragile, elle mourut à l'âge de 24 ans seulement. Mais si son corps était infirme, son cœur était vibrant, était missionnaire. Dans son d'hier, elle raconte qu'être missionnaire était son désir et qu'elle voulait l'être non seulement pour quelques années, mais pour le reste de sa vie, voire jusqu'à la fin du monde. Thérèse fut la sœur spirituelle de plusieurs missionnaires. Depuis le monastère, elle les accompagnait par ses lettres, ses prières, et en offrant pour eux des sacrifices continuels. Sans en avoir l'air, elle intercédait pour les missions, cachée comme un moteur qui donne aux véhicules la force pour avancer. Cependant, elle fut souvent incomprise par ses sœurs moniales. Elle reçut d'elle plus d'épines que de roses, mais elle accepta tout avec amour, avec patience, offrant en même temps que sa maladie, les jugements et les incompréhensions. Et elle le fit avec joie, et elle le fit pour les besoins de l'Église, afin que, comme elle disait, se répandent des roses sur tous, en particulier sur les plus éloignés. Mais maintenant je me demande, nous pouvons nous demander d'où lui viennent ce zèle, cette force missionnaire et cette joie d'intercéder ? Deux épisodes survenus avant l'entrée de Thérèse au monastère nous aident à le comprendre. Le premier concerne le jour qui changea sa vie. Un jour lui a changé sa vie, Noël 1886, où Dieu opère un miracle dans son cœur. Thérèse aura bientôt 14 ans. En tant que benjamine, elle est choyée par tout le monde à la maison, mais non pas mal éduquée. Au retour de la messe de minuit, son père très fatigué n'a pas envie d'assister à l'ouverture des cadeaux de sa fille et dit « Dieu merci, c'est la dernière année, parce qu'à l'âge de 15 ans, on ne le faisait déjà plus. » Thérèse, de nature très sensible et prompte aux larmes, en fut blessée, monta dans sa chambre et pleura. Mais elle réprima rapidement ses larmes, redescendit, et pleine de joie, ce fut elle qui réjouit ainsi son père. Que s'est-il donc passé, cette nuit-là, alors que Jésus s'était fait faible par amour, elle était devenue forte dans son âme. Un vrai miracle. En quelques instants, elle était sortie de la prison de son égoïsme et de son apitoiement sur elle-même, et elle commença à sentir que la charité entrait dans son cœur, c'est ce qu'elle dit, avec le besoin de s'oublier elle-même. Dès lors, elle oriente son zèle vers les autres pour qu'ils trouvent Dieu. Et au lieu de chercher des consolations pour elle-même, elle se donne pour tâche de consoler Jésus, de le faire aimer des âmes. Car, note Thérèse, Jésus est malade d'amour, et la maladie de l'amour ne peut être guérie que par l'amour. Voilà donc son objectif quotidien, faire aimer Jésus. Intercéder pour que les autres puissent l'aimer. Elle écrit « Je voudrais sauver les âmes et m'oublier pour elles. Je voudrais les sauver, même après ma mort. » Plusieurs fois, elle dira « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » C'est le premier épisode qui a changé sa vie à l'âge de 14 ans. Son zèle était surtout dirigé vers les pécheurs, vers les éloignés. C'est ce que révèle le second épisode. C'est intéressant. Thérèse apprend l'existence d'un criminel condamné à mort pour des crimes horribles. Il se nommait Enrico Pranzini. Elle écrit le nom. Reconnu coupable du meurtre brutal de 3 personnes, il est destiné à la guillotine, mais ne veut pas recevoir les réconforts de la foi. Thérèse le prend à cœur et fait tout ce qu'elle peut. Elle prie de toutes les manières pour sa conversion, afin que celui qu'elle appelle avec une compassion fraternelle, le pauvre Pranzini, ait un petit signe de repentir et fasse place à la miséricorde de Dieu, en qui Thérèse voue une confiance aveugle. L'exécution a lieu. Le lendemain, Thérèse lit dans le journal que Pranzini, juste avant de poser sa tête sur l'échafaud, soudain, saisi d'une inspiration subite, se retourne, saisit un crucifix que le prêtre lui présentait et baisse 3 fois les plaies saintes de Jésus. La sainte commente. Alors son âme alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui a déclaré qu'au ciel il y a plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Frères et sœurs, voilà la force de l'intercession mue par la charité. Voilà le moteur de la mission. Les missionnaires, en effet, dont Thérèse est la patronne, ne sont pas seulement ceux qui parcourent de longues distances, apprennent de nouvelles langues, font de bonnes œuvres et sont doués pour l'annonce. Non, missionnaire l'est aussi celui qui vit là où il se trouve comme instrument de l'amour de Dieu. C'est celui qui fait tout pour que par son témoignage, sa prière, son intercession, Jésus soit manifesté. Et c'est le zèle apostolique qui, rappelons-le toujours, ne procède jamais par prosélytisme ou par contrainte, jamais, mais par attraction. La foi naît par attraction. On ne devient pas chrétien parce qu'on y est forcé par quelqu'un, mais parce qu'on est touché par l'amour. Avant tant de moyens, de méthodes et de structures qui parfois détournent de l'essentiel, l'Église a surtout besoin de cœurs comme celui de Thérèse, de cœurs qui attirent à l'amour et rapprochent de Dieu. Et demandons à la Sainte, nous avons les reliques ici, demandons à la Sainte la grâce de surmonter notre égoïsme et demandons la passion d'intercéder pour que cet attrait soit plus grand chez les gens et pour que Jésus soit connu et aimé. Le pape François invite les fidèles à approcher fréquemment et avec dévotion de Jésus, le pain de vie qui donne force, lumière et joie. À l'audience générale de ce mercredi 7 juin 2023, place Saint-Pierre, le pape François a dit « J'adresse maintenant une pensée aux jeunes, aux malades, aux personnes âgées et aux jeunes mariés, inspirée par la prochaine fête du Corpus Domini, qui célèbre l'Eucharistie, centre et source de la vie de l'Église. Approchez-vous fréquemment et avec dévotion de Jésus, le pain de vie qui donne force, lumière et joie, et il deviendra la source de vos choix et de vos actions. » La fête du Saint-Sacrement, appelée encore Fête Dieu, Corpus Christi ou Corpus Domini, est célébrée le deuxième dimanche après la Pentecôte. Elle a été instituée au Moyen-Âge pour commémorer la présence de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Depuis le Concile Vatican II, la fête Dieu est appelée fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Cette fête est un appel à approfondir le sens de l'Eucharistie et sa place dans notre vie. Cette fête est la célébration du Dieu d'amour qui se révèle en donnant son corps et son sang et en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle. Au terme de l'audience générale, le pape François s'est rendu à l'hôpital universitaire Agostino Gemelli, où il a subi en début d'après-midi, sous anesthésie générale, une laparotomie et plastie de la paroi abdominale avec prothèse, selon le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Le bureau de presse du Saint-Siège a informé, par précaution, que toutes les audiences et activités publiques du pape François sont suspendues jusqu'au 18 juin. Comme l'indique le bureau de presse du Saint-Siège à propos de l'intervention chirurgicale du pape, l'opération s'est déroulée sans complication et a duré 3 heures. Le pape va bien. Alerte, il a fait sa première blague, dit son chirurgien, Sergio Alfieri, qui a opéré le souverain pontife dans l'après-midi du 7 juin. Il a rapporté à la presse que le Saint-Père est conscient et remercie pour les messages de proximité. Plaisantant, il m'a même demandé quand aurait lieu la troisième opération. Le chirurgien exclut toute autre pathologie ainsi que tout problème lié à l'anesthésie générale. Le pape se reposera le temps nécessaire. L'équipe de Radio Maria s'unit à la prière pour le Saint-Père. Joignez-vous à nous pour prier pour le prompt rétablissement de notre pape François. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici l'enseignement qu'a donné notre Saint-Père le pape François, place Saint-Pierre, ce dimanche 4 juin 2023, en la solennité de la Sainte Trinité, lors de l'Angélus. Aujourd'hui, solennité de la Sainte Trinité, l'évangile est tiré du dialogue de Jésus avec Nicodème. Nicodème était un membre du Sanhédrin, passionné par le mystère de Dieu. Il reconnaît en Jésus un maître divin et va lui parler secrètement de nuit. Jésus l'écoute, comprend qu'il s'agit d'un homme en quête et l'étonne d'abord en lui répondant que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut renaître. Puis, il lui révèle le cœur du mystère en lui disant que Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a envoyé son Fils dans le monde. Jésus donc, le Fils, nous parle du Père et de son immense amour. Père-Fils, c'est une image familière qui, si l'on y réfléchit, ébranle notre imaginaire sur Dieu. Le mot même de Dieu, en effet, nous suggère une réalité singulière, majestueuse et lointaine. Alors qu'entendre parler d'un père et d'un fils nous ramène à la maison. Oui, nous pouvons penser à Dieu de cette manière, à travers l'image d'une famille réunie à table, où la vie est partagée. Du reste, la table, qui est en même temps un autel, est un symbole avec lequel certaines icônes représentent la Trinité. C'est une image qui nous parle d'un Dieu de communion, Père, Fils et Saint-Esprit. Communion. Mais ce n'est pas seulement une image, c'est la réalité. C'est la réalité parce que l'Esprit Saint, l'Esprit que le Père a répandu dans nos cœurs à travers Jésus, nous fait goûter, nous fait savourer la présence de Dieu. Une présence toujours proche, compatissante et tendre. L'Esprit Saint fait avec nous ce que Jésus a fait avec Nicodème. Il nous introduit dans le mystère de la nouvelle naissance, la naissance de la foi, de la vie chrétienne. Nous dévoile le cœur du Père et nous fait participer à la vie même de Dieu. L'invitation qu'il nous adresse, pourrions-nous dire, est de nous asseoir à table avec Dieu pour partager son amour. C'est ce qui se passe à chaque messe, à l'autel du partage eucharistique, où Jésus s'offre au Père et s'offre pour nous. Et oui, frères et sœurs, il en est ainsi. Notre Dieu est communion d'amour. C'est ainsi que Jésus nous l'a révélé. Et savez-vous comment nous pouvons nous en souvenir ? Par le geste le plus simple, que nous avons appris dès l'enfance, le signe de la croix. En traçant la croix sur notre corps, nous nous rappelons combien Dieu nous a aimés, au point de donner sa vie pour nous. Et nous nous répétons que son amour nous enveloppe complètement, de haut en bas, de gauche à droite, comme une étreinte qui ne nous abandonne jamais. Et en même temps, nous nous engageons à témoigner de Dieu amour en créant une communion en son nom. À présent, que chacun de nous et tous ensemble se fasse le signe de la croix. Et le pape se fait le signe de la croix. Aujourd'hui, nous pouvons alors nous demander, témoignons-nous de Dieu amour ? Ou bien Dieu amour est-il devenu à son tour un concept, quelque chose de déjà entendu, qui n'a plus d'effet et ne provoque plus la vie ? Si Dieu est amour, nos communautés en témoignent-elles ? Savent-elles aimer ? Nos communautés savent-elles aimer ? Et notre famille, savons-nous aimer en famille ? Gardons-nous la porte toujours ouverte ? Savons-nous accueillir tout le monde, je dis bien tout le monde, comme des frères et sœurs? Offrons-nous à tous le mets du pardon de Dieu et la joie évangélique? Respire-t-on un air familier ou ressemblons-nous plutôt à un bureau ou à un lieu réservé ou seul entre les élus? Dieu est amour, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit et a donné sa vie pour nous. C'est pour cela que nous faisons le signe de croix. Et que Marie, nous aide à vivre l'Église comme cette maison où l'on s'aime comme en famille, à la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le pape François donne trois conseils spirituels aux religieux. La relation avec le Christ, le zèle apostolique et le courage créatif. Le matin du lundi 29 mai, le pape François a accueilli en audience les clercs réguliers de Saint-Paul, mieux connus sous le nom de Barnabites. En 2011, l'ordre était composé d'environ 403 religieux. Nous proposons ci-dessous le discours que leur a prononcé le pape François. Je suis heureux de partager avec vous ce moment de rencontre à l'occasion du 125e anniversaire de la canonisation de Saint-Antoine-Marie Zacharie. Et alors que vous vous préparez pour deux chapitres généraux importants, vous êtes des pères, des sœurs et des laïcs réunis en trois collèges, comme les appelait votre fondateur, tous animés par l'esprit apostolique de Saint Paul, qui a inspiré vos origines et sous la protection duquel vous continuez à travailler dans diverses parties du monde. Je suis guidé par une expression caractéristique de Saint Antoine Marie. Il avait l'habitude de dire à ses adeptes « Vous devez courir comme des fous ». Courir vers Dieu et vers les autres. Courir comme des fous. Ne pas être des fous qui courent, c'est autre chose. De cette exhortation typiquement paulinienne, je voudrais souligner trois aspects. La relation avec le Christ, le zèle apostolique et la valeur créative. Dans l'expérience de Zacharie lui-même, la base de la mission est de courir vers Dieu, c'est-à-dire une relation forte avec le Seigneur Jésus. Cultivé depuis sa jeunesse sur un chemin sérieux de croissance, en particulier en méditant la parole de Dieu avec l'aide de deux bons religieux. C'est ce qui l'a conduit d'abord au compromis catéchétique, puis au sacerdoce, et enfin à la fondation religieuse. Ce type de relation avec le Christ est également fondamental pour nous, pour dire à tous, l'ayant vécu personnellement, que la vie n'est pas la même avec ou sans le Seigneur, pour continuer à courir vers le but, comme dit saint Paul, et pour impliquer dans cette course les personnes qui nous ont précédés. Notre annonce missionnaire n'est pas du prosélytisme, je le souligne beaucoup, mais le partage d'une rencontre personnelle qui a changé notre vie. Sans cela, nous n'avons rien à annoncer, ni une destination vers laquelle marcher ensemble. J'ai eu en cela une mauvaise expérience lors d'une rencontre de jeunes il y a quelques années. Je suis sorti de la sacristie et il y avait une dame très élégante. On voyait aussi qu'elle était très riche, avec un garçon et une fille. Et cette dame qui parlait espagnol m'a dit « Père, je suis heureuse parce que j'ai converti ces deux-là. Celui-ci est d'un tel endroit et celui-ci est d'un tel autre. » Je me suis fâché. « Tu sais, je lui ai dit, vous n'avez rien converti. Vous avez manqué de respect à ces gens, vous ne les avez pas accompagnés. Vous leur avez fait du prosélytisme et ce n'est pas évangéliser. » Attention à distinguer l'action apostolique du prosélytisme. Nous ne faisons pas de prosélytisme. Le Seigneur n'a jamais fait de prosélytisme. Courir vers les autres, c'est la deuxième indication. Celle-ci aussi est fondamentale. En effet, si nous perdons de vue dans notre vie de foi l'horizon de l'annonce, nous finissons par nous enfermer dans nous-mêmes et nous dessécher dans les landes de l'auto-référentialité. Cela nous arrive comme un athlète qui continue à se préparer à la grande course de sa vie sans jamais commencer. Tôt ou tard, il finit par déprimer et commence à se laisser aller. Son enthousiasme s'éteint. Et ainsi, on devient un disciple triste. Nous ne voulons pas devenir des disciples tristes. Ici aussi, je pose une question. Ce ver de la tristesse est-il en moi? Parfois, en moi, religieux, laïque, est-ce que je laisse entrer ce ver? Quelqu'un a dit qu'un chrétien triste est un triste chrétien, et c'est vrai. Mais en nous consacrer, la tristesse ne doit pas entrer. Et si quelqu'un ressent cette tristesse, allez immédiatement devant le Seigneur et demandez-lui la lumière, et demandez à un frère de l'aider à en sortir. C'est pourquoi Jésus met dans les racines même de l'Église le commandement à aller dans le monde entier et proclamer l'Évangile à toute créature. Et saint Paul le confirme lorsqu'il dit en parlant de son apostolat « Je ne peux m'empêcher, malheur à moi, si je n'annonce pas le Christ. » Il n'y avait pas de place pour la tristesse. Je voulais aller de l'avant. Malheur à nous si nous n'annonçons pas le Christ. C'est pourquoi je vous encourage à aller de l'avant dans la direction indiquée par votre charisme, porté par tout l'esprit vivant du Christ. L'esprit vivant du Christ est celui qui conquiert le cœur, celui qui ne vous fait pas vous asseoir dans votre fauteuil, mais vous fait aller vers les frères avec un sac à dos léger et un regard plein de charité. Apportez cet esprit partout, sans exclure personne, et en vous ouvrant également à de nouvelles formes d'apostolat, dans un monde en mutation qui a besoin d'esprits flexibles et d'esprits ouverts, de chemins partagés, de recherches, pour identifier les bonnes façons de transmettre le seul évangile de tous les temps. Et avec cela, nous arrivons au troisième point. Courir comme des fous. Ce qui n'est pas la même chose qu'être des fous qui courent, c'est différent. C'est-à-dire le courage créatif. Il ne s'agit pas tant d'élaborer des techniques d'évangélisation sophistiquées, mais comme le dit saint Paul, de se faire tout à tous pour sauver quelqu'un à tout prix. De ne pas s'arrêter devant les difficultés et de regarder au-delà des horizons de l'habitude et de la vie tranquille. Dieu, ça a toujours été fait comme ça. Saint Antoine-Marie a eu ce courage en créant des institutions nouvelles pour son temps. Une congrégation de réforme du clergé à une époque où tant de clercs s'étaient habitués à une vie confortable et privilégiée. Une congrégation religieuse féminine non cloîtrée, dédiée à l'évangélisation. À une époque où pour les femmes, la vie consacrée était cloîtrée. Une congrégation de missionnaires laïcs activement engagés dans l'annonce, à une époque où un certain cléricalisme dominait. Il s'agissait de réalités nouvelles, il était créatif mais fidèle à l'Évangile. Ces réalités n'existaient pas auparavant. Le fondateur a compris qu'elles pouvaient être utiles pour le bien de l'Église et de la société, et donc il les a inventés et défendus devant ceux qui n'en comprenaient pas le sens et l'utilité, jusqu'à venir à Rome pour en rendre compte. Et en cela, il y a un enseignement important, car il n'a pas exercé sa créativité en dehors de l'Église. Il l'a fait à l'intérieur, en acceptant les corrections et les reproches, en cherchant à expliquer et à illustrer les raisons de ses choix, et en préservant la communion dans l'obéissance. Je conclus en rappelant une dernière valeur importante pour vos collègues, vos collèges, l'importance de faire ensemble. La communion dans la vie et dans l'apostolat est en effet le premier témoignage que vous êtes appelés à donner, surtout dans un monde divisé par les luttes et l'égoïsme. Il est écrit dans l'ADN de la vie chrétienne et de l'apostolat « Que tous soient un », comme l'a prié le Seigneur. De plus, le même mot « collège » indique précisément ceci. Élu pour être ensemble, pour vivre, travailler, prier, souffrir et se réjouir ensemble, en tant que communauté. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, courez comme des fous vers Dieu et les uns vers les autres, ensemble. Et que la Vierge qui s'est précipitée pour aider Élisabeth vous accompagne. Je vous bénis de tout mon cœur. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci. Chers auditeurs, c'était notre émission Actualité du Pape. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.